Chapitre 31 De la cire rouge. Alors que le vacarme ambiant occultait le bruit des sabots de son hongre noir, à la croupe et au flanc protégé par une couverture couleur neige, Éamon Valda remontait lentement les rues bondées d'Amador. Même s'il transpirait à grosses gouttes son plastron et sa cotte de maille, les deux brillants de mille feux sous une fine couche de poussière, Valda n'aurait pas davantage accordé d'attention au climat par une belle et tempérée journée de printemps. Dans le même ordre d'idées, il s'efforçait de ne pas voir les hommes, les femmes et les enfants crasseux, à l'expression hagarde, qui erraient en haillons dans la ville. Même ici, il y en avait même ici. Pour la première fois de sa vie, voir les hauts murs de pierre de la forteresse de la lumière, l'imprenable bastion de la vérité et du droit, si majestueux avec ses tours et ses étendards battant au vent, ne remonta pas le moral de Valda. Une fois dans la cour d'honneur, il mit pied à terre et confia sa monture à un fils de la lumière qui l'accabla de recommandations au sujet du hongre. L'homme savait parfaitement s'occuper d'un cheval, bien entendu, mais parfois, se défouler sur quelqu'un faisait du bien. Comme pour défier la chaleur, des hommes en cape blanche allaient et venaient dans tous les sens. Valda espéra que cette démonstration d'énergie était un peu plus que de la bravade. Le jeune Dane Bornald approcha au pas de course, le poing plaqué sur la poitrine en guise de salut.
« Que la lumière brille sur vous, seigneur capitaine. Vous avez fait bon voyage depuis Tarvalon ?»
Les yeux injectés de sang, Dane puait l'agneau la plein nez. Boire pendant le service était une faute inexcusable.
« Rapide, en tout cas, »
marmonna Valda, bourru. Il retira ses gantelets et les glissa dans sa ceinture. Sa mauvaise humeur n'avait rien à voir avec l'agneau, même s'il ferait un rapport sur la conduite inqualifiable du jeune officier. Quand il disait « rapide », c'était bien sûr en relation avec l'énorme distance à couvrir. Lorsque le camp aurait été dressé à l'extérieur de la ville, il avait l'intention d'offrir une nuit de permission à ses hommes, histoire qu'ils fassent la foire. Oui, un voyage rapide, mais fort désagréable, quand on désapprouvait les ordres qui vous ramenaient au bercail au mauvais moment. Une poussée vigoureuse, oui, une seule, et la maudite tour blanche serait écroulée, enterrant sous ses ruines les sorcières de Tarvalon. Et durant ce voyage de malheur, chaque journée avait apporté son lot de nouvelles pires que celles de la veille. Par exemple, la présence d'Altor à Kemlin. Qu'il s'agisse d'un faux dragon ou du vrai n'avait guère d'importance. Ce type canalisait le pouvoir, et tout homme capable de le faire était par définition un suppôt de ténèbres. Des fidèles du dragon ravageaient l'Altara, et le soi-disant prophète, avec sa vermine à la traîne, sévissait au Géaldan et même en Amadicia. Au moins, Valda avait réussi à tuer un peu de cette racaille, même s'il était difficile d'affronter des adversaires qui préféraient la retraite à toute autre forme de mouvement. Des chiens qui pouvaient se fondre au flot de misérables réfugiés, ou pire encore, aux bandes de vagabonds débiles qui semblaient croire qu'Altor avait réussi à mettre le monde entier sans dessus-dessous. Cela dit, Valda avait trouvé une solution, même si elle n'était pas totalement satisfaisante. Dans le sillage de sa légion, la route était jonchée de cadavres pour le plus grand bonheur des charognards gorgés de chair humaine. Puisqu'il était impossible de distinguer la vermine du prophète des autres déchets d'humanité, Valda avait ordonné qu'on massacre tout le monde. Tant pis pour les innocents, qui auraient dû rester chez eux. Mais de toute façon, le Créateur prendrait soin d'eux. Quant aux vagabonds, ils étaient en quelque sorte la cerise sur le gâteau.
« En ville, j'ai entendu dire que Morgaz est ici. »
N'en ayant pas cru un mot, en Andorre, toutes les rumeurs tournaient autour de l'identité du ou des meurtriers de la reine. Valda fut surpris de voir Bornald acquiescer. La surprise se mua en dégoût quand le jeune officier bavassa sur les appartements de Morgaz, sur ses chasses somptueuses, sur l'excellent traitement qu'on lui réservait et sur la certitude qu'elle finirait par signer un pacte avec les Fils de la Lumière. Valda ne cacha pas sa désapprobation. Pourtant, il n'aurait pas dû attendre mieux de Nial. En son temps, cet homme avait été un très grand soldat et un formidable chef de guerre. Mais l'âge l'avait ramolli, comme c'était presque toujours le cas. Depuis que l'ordre de se retirer de Tarvalon lui était parvenu, Valda n'avait plus le moindre doute à ce sujet. Dès qu'on avait eu vent de la présence d'Altor en Théar, Nial aurait dû passer à l'attaque. En chemin, il aurait glané tous les renforts nécessaires, car les nations se seraient alliées aux Fils de la Lumière pour combattre un faux dragon. À cette époque, en tout cas. Maintenant, Altor était à Kemlin, assez puissant pour effrayer les timides et les lâches. Mais Morgaz, elle, résidait à Amador. Si Valda avait pu être à la place de Nial, la souveraine aurait signé ce pacte dès le premier jour, même s'il avait fallu lui tenir la main pour qu'elle écrive. Lui, il lui aurait appris à obéir. Que la lumière lui en soit témoin. Et si retourner chez elle avec des fils de la lumière la gênait, il l'aurait attachée par les poignets et les chevilles à la hampe d'un étendard. Un beau drapeau avec lequel entrer en Andorre, non ? Sa tirade achevée, Dane attendait en silence. Sans nul doute, il espérait une invitation à dîner. Étant donné son grade, il ne pouvait prendre l'initiative avec un supérieur, mais il espérait sûrement pouvoir parler de Tarvalon avec son ancien chef, et peut-être même évoquer la mort de son père. Valda n'avait jamais pensé grand bien de Geoffram Bornald, un homme bien trop mou à son goût.
« Rendez-vous à 6 heures au camp pour dîner. J'entends que tu sois à jeun, fils de la lumière Bornald. »
Dane aurait du pain sur la planche pour atteindre cet objectif. Solidement ivre, il bégaya quelques mots inintelligibles, salua maladroitement et s'enfuit d'une démarche mal assurée. Que pouvait-il bien lui être arrivé ? Le Dane Bornald qu'avait connu Valda était un excellent officier. Du genre à se soucier un peu trop de détails inutiles, comme avoir des preuves de culpabilité quand elles étaient impossibles à obtenir, mais efficace et compétent malgré tout. Et surtout, beaucoup moins faible que son père. Le voir sombrer dans l'alcool était un spectacle affligeant. En marmonnant entre ses dents, parce que des officiers ivrognes, au cœur même de la forteresse, indiquaient bien que l'autorité de Nial se délitait, Valda se mit en quête de ses quartiers. Même s'il avait l'intention de dormir dans le camp, un bon bain ne lui ferait pas de mal. Un jeune fils de la lumière aux épaules carrées avançait à la rencontre de Valda dans le couloir de pierre brute. Derrière le soleil flamboyant qui ornait sa poitrine, un bâton de berger écarlate l'identifiait comme un membre de la main de la lumière. Sans s'arrêter ni même regarder Valda, le confesseur murmura respectueusement. « Le seigneur capitaine souhaite peut-être aller admirer le dôme de la vérité ?» Valda fronça les sourcils à l'intention de l'inconnu. À vrai dire, il n'aimait pas les confesseurs. Même s'il fallait reconnaître qu'il faisait du bon travail, ces hommes, selon lui, avaient choisi la main de la lumière afin d'éviter de se retrouver un jour face à un adversaire armé et pas entravé. Alors qu'il s'apprêtait à souffler dans les bronches de l'impudent, Valda se ravisa. Même si les confesseurs avaient tendance à prendre la discipline à la légère, un simple fils ne se serait jamais permis d'adresser la parole à un seigneur capitaine sans avoir une bonne raison. Le bain pouvait peut-être attendre au fond. La vue du dôme de la vérité finit par remonter un peu le moral de Valda. D'un blanc immaculé à l'extérieur, l'édifice, à l'intérieur, était entièrement tapissé de feuilles d'or, qui reflétaient la lumière d'un bon millier de lampes suspendues. Alors que des colonnes blanches plus polies que des armures entouraient la salle circulaire, le dôme lui-même, dépourvu de support, faisait près de 300 pieds de large pour quelques 150 de haut, à son point le plus élevé. Au centre de la salle au sol en marbre blanc, se dressait la plateforme, également en marbre blanc, d'où le seigneur général des Fils de la Lumière s'adressait à ses hommes lors des cérémonies les plus solennelles et les plus lourdes de sens. Un jour, Valda le savait, ce serait lui qui se tiendrait là, car Nial ne serait pas éternel. Des dizaines de fils allaient et venaient dans la grande salle. Vraiment, le dôme était un spectacle qui valait le déplacement, même si seuls les fils pouvaient en profiter, bien entendu. Mais le message délivré par l'inquisiteur n'était pas une banale invitation à venir contempler une merveille de l'architecture. Ça tombait sous le sens. Derrière le premier cercle de colonnes, il y en avait un deuxième, composé de colonnes plus petites et tout aussi polies, et au-delà, dans des alcôves, de splendides fresques rendaient grâce aux innombrables triomphes militaires des Fils de la Lumière. Passant d'une de ces niches à l'autre, Valda remarqua enfin un grand type aux cheveux grisonnants occupé à détailler une peinture. Sérénia Latar hissée à l'échafaud. La seule chair d'Amirline que les Fils de la Lumière aient jamais réussi à pendre. Bien entendu, elle était déjà morte. Exécuter une sorcière vivante n'avait rien de facile, mais la question n'était pas là. 693 ans plus tôt, justice avait été faite en accord avec la loi, et cela seul importait.
« Es-tu troublé, mon fils ?»
demanda une voix étrangement douce. Valda se tendit. Radam Asunawa était certes le haut inquisiteur, mais il restait un membre de la main de la lumière. Quand il s'adressait à un seigneur capitaine initié de la lumière, le « mon fils » semblait des plus déplacés.
« Pas à ma connaissance, »
répondit sèchement Valda. Asunawa soupira. Son visage émacié étant l'incarnation de toute la souffrance du monde, on aurait facilement pu prendre pour des larmes la sueur qui ruissait sur ses joues. Mais dans ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, brillait toujours la flamme qui semblait avoir consumé sur son corps jusqu'à l'ultime once de chair superflue. Sur sa cape, il n'y avait que le bâton de berger, sans soleil étincelant. Comme s'il estimait être extérieur au fils de la lumière. Ou supérieur, peut-être.
Les temps sont troublés. La forteresse de la lumière abrite une sorcière.
Valda réussit à ne pas ricaner. Qu'ils fussent des lâches ou non, les confesseurs pouvaient être dangereux, même pour un seigneur capitaine. Asunawa n'aurait sûrement jamais l'occasion de pendre une chair d'Amerlin, mais il rêvait sans doute d'être le premier à faire monter une reine sur l'échafaud. Pour Valda, que Morgaz vive ou meure n'avait aucune importance, pour autant qu'on en ait tiré tout ce qu'on pouvait en tirer. Devant le mutisme de son interlocuteur, Asunawa se rembrunit, fronçant tellement les sourcils que ses yeux parurent avoir sombré au fond de deux puits jumeaux.
« Les temps sont troublés, » répéta-t-il. « Enya, elle ne devrait pas être autorisée à détruire les fils de la lumière. »
De longues minutes durant, Valda s'immergea dans la contemplation de la fresque. Le peintre avait-il eu du talent, ou était-ce un gribouilleur? Il n'en savait rien, et il s'en fichait. En tout cas, les armes et les armures des gardes étaient fidèles à la réalité, et la corde comme l'échafaud était criant de vérité. Ça, c'était des détails dont il pouvait juger.
« Je suis prêt à tout écouter, »
souffla finalement Valda.
« Alors nous parlerons, mon fils, plus tard, quand il y aura moins d'yeux pour nous voir et moins d'oreilles pour nous entendre. Que la lumière brille sur toi, mon fils. »
Asunawa s'éloigna sans un mot de plus. Sa cape blanche ondulant sur ses épaules, alors que le bruit de ses pas retentissait comme le tonnerre. À croire qu'il voulait graver dans la pierre chacune de ses enjambées. Impressionnés, quelques fils de la lumière s'inclinèrent sur son passage. Derrière une étroite fenêtre dominant de très haut la cour d'honneur, Pedron Nial vit Valda mettre pied à terre, s'entretenir avec le jeune Bornald, puis s'éloigner en maugréant. Et Amon Valda était toujours en rogne. S'il y avait eu un moyen de faire revenir les fils de la lumière de Tarvalon en y laissant leur chef, le seigneur général n'aurait pas hésité un instant. Assez bon chef de guerre, Valda était plus doué encore pour fomenter des émeutes. Son credo tactique, chargé. Sa ligne directrice stratégique, chargé. Pensif, Nial se dirigea vers sa salle d'audience. Il avait des tracas bien plus urgents que ce seigneur capitaine. Comme une armée déployée en hauteur, qui ne manque ni d'eau ni de détermination, Morgaz résistait inlassablement. Pas moyen de lui faire comprendre qu'elle était coincée dans une cuvette, sans voie de fuite. Ses adversaires tenant la position dominante. Quand Nial entra dans l'antichambre, Balwer se leva de sa table.
« Omirna est passé, seigneur, et il a laissé ses documents pour vous. Plus ceci. »
Balwer sortit de sa poche un petit cylindre en os. Nial le prit et entra dans sa salle privée. Pour une raison inconnue, Omirna devenait chaque jour un peu plus inutile. Même s'il ne contenait rien de transcendant, confier ses rapports à Balwer était une faute professionnelle. Mais ces cylindres portant trois rayures rouges devaient être remis en main propre au seigneur général. Et ça, c'était presque une trahison. Nial approcha le cylindre d'une lampe pour examiner le sceau. Intact par bonheur, jusqu'à ce qu'il le brise. N'empêche, il devrait secouer cet abruti d'Omerna, histoire de raviver en lui la crainte de la lumière. Pour avoir de la valeur en tant que leurre, il fallait que cet idiot joue les maîtres espions au mieux de ses chiches compétences. Le message était de nouveau de Varadin. Le code privé de Nial, sur une si petite bande de parchemin, formant des pattes de mouche, a donné le tournis. Le seigneur général faillit brûler la missive avant de l'avoir lue, mais quelque chose, à la fin, lui accrocha l'œil. Reprenant au début, il déchiffra soigneusement chaque phrase, histoire d'être absolument sûr. Comme d'habitude, il y avait des âneries sur des Aes Sedai tenues en laisse et des bêtes étranges, mais les derniers mots... Varadin avait aidé Asidim Feizar à trouver une cachette à Tanchico. Il avait l'intention de l'en faire sortir en douce, mais les Seanchaniens montaient si bien la garde qu'un murmure n'aurait pas pu franchir les portes sans leur autorisation. Nial se frotta pensivement le menton. Feizar était un des agents qu'il avait envoyé au Tarabone, afin de voir s'il y avait quelque chose à sauver. Feizar ne savait rien de Varadin, et Varadin n'aurait rien dû savoir de Feizar. Quant à la garde montée par les Seanchaniens, les propos d'un dément. Le seigneur général glissa le message dans sa poche et retourna dans l'antichambre.
« Balwer, quelles sont les dernières nouvelles de l'Ouest ?»
Entre eux, le mot « Ouest » désignait toujours la frontière avec le Tarabone.
Aucun changement, Seigneur. Les patrouilles qui s'enfoncent dans les Tarabones ne reviennent jamais. Sur la frontière, le principal problème, ce sont les réfugiés.
Les patrouilles qui s'enfoncent. Le Tarabone était un nid de serpents infestés de rats enragés, mais...
Combien de temps un messager mettra-t-il pour atteindre Tanchico ?
Balwer ne s'y a même pas. Si son cheval lui parlait un jour, cet homme ne tressaillerait pas, c'était couru d'avance.
Toute la question, après avoir traversé la frontière, c'est de trouver des montures fraîches. En temps normal, 20 jours suffiraient, aller et retour. Peut-être un peu moins avec de la chance. En ce moment, il faut doubler ce nombre si on ne joue pas de malchance.
Un nid de serpent ou un messager pouvait disparaître sans même qu'on retrouve ses os. L'aller suffirait, mais Nial préférait garder pour lui ce détail.
Organise ça au plus vite, Balwer. Dans 1 heure, j'aurai rédigé la lettre à convoyer. Et je parlerai moi-même au messager.
Balwer s'inclina respectueusement. En même temps, il se tordit un peu les mains, vexé par la dernière phrase de son maître. Eh bien, qu'il fulmine si ça lui chantait. Il y avait une petite chance de faire ce qu'il fallait sans exposer Varadin. Bien sûr, s'il était fou, toutes ses précautions devenaient ridicules. Mais de toute façon, brûler sa couverture ne permettrait pas d'aller plus vite. De retour dans sa salle d'audience, Nial relut le message avant de le brûler et d'écraser les cendres entre ses doigts. En matière d'action et d'information, il avait 4 règles incontournables. Primo, ne jamais établir un plan sans en savoir aussi long que possible sur l'adversaire. Secondo, ne jamais hésiter à modifier un plan lorsqu'on recevait une nouvelle information. Tertio, ne jamais penser qu'on savait tout. Et quarto, ne jamais attendre de tout savoir pour agir. Un chef qui attendait de tout savoir était encore assis sous sa tente quand l'ennemi y mettait le feu. Nial suivait fidèlement ses règles. Une seule fois, il les avait oubliées pour suivre une intuition. À Jamara, sans autre raison qu'un vague pressentiment, il avait affecté 1/3 de ses forces à la surveillance de montagnes réputées infranchissables. Tandis que le reste de ses troupes s'apprêtait à écraser les Mourandiens et les Altariens, une armée ilianienne censée être à des dizaines de lieues de là avait surgi de ses cols infranchissables. Grâce à une intuition, Nial avait pu éviter d'être pris en étau, sauvant de justesse son armée. Et aujourd'hui, il avait de nouveau un pressentiment.
« Je n'ai pas confiance en lui !»
affirma Talanvor, péremptoire.
« Il me fait penser à un jeune arnaqueur que j'ai vu un jour à la foire. Un type au visage d'enfant, capable de vous regarder dans les yeux et de sourire tandis qu'il trichait honteusement au Bonto. »
Pour une fois, Morgaz n'eut aucun mal à garder son calme. Le jeune paître venait de lui annoncer que son oncle avait trouvé un moyen de la faire sortir discrètement de la forteresse de la lumière, idem pour ses compagnons. Ceci était depuis le début le hic de toute l'affaire. Thorwin Barshaw avait toujours prétendu pouvoir aider la reine à fuir seule. Mais elle refusait de laisser ses amis à la merci des capes blanches. Oui, même Talanvor.
« Je prends note de ta remarque, »
dit Morgaz, inhabituellement patiente.
« Mais assure-toi que cette impression ne t'empêche pas d'agir. Aurais-tu un dicton approprié, Ligny ? Quelque chose qui conviendrait au jeune Talanvor et à ses... intuitions ?»«
Par la lumière. » Pourquoi prenait-elle un tel plaisir à taquiner ce garçon ? Il frôlait souvent la trahison, mais elle était sa reine, pas sa... La fin de cette pensée refusa de sortir. Assise près d'une fenêtre, Ligny enroulait en pelote une longueur de fil bleu que Brienne tenait en écheveau entre ses mains.
« Peitre me fait penser à ce jeune garçon d'écurie. Juste avant que tu partes pour la Tour Blanche. Tu sais, celui qui a engrossé 2 servantes puis a tenté de s'enfuir avec un sac rempli d'argenterie appartenant à ta mère. »
Morgaz serra les dents, mais rien ne put gâter son plaisir, même pas le regard que lui jeta Brienne, comme si elle se croyait autorisée à donner elle aussi son opinion. Peitre était enthousiasmé par l'évasion imminente de Morgaz. Bien sûr, c'était en partie parce qu'il espérait recevoir une récompense de son oncle. En tout cas, ça ressortait de ses propos au sujet de racheter une erreur qu'il avait commise dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, il avait quasiment dansé de joie quand Morgaz avait donné son accord pour quitter la forteresse dès ce jour, avec toute sa suite, pour sortir d'Amador le lendemain à l'aube. Hors d'Amador et en route pour le Gealdan, d'où ne partiraient jamais des soldats chargés de priver le royaume d'Andorre de son indépendance. 2 jours plus tôt, déguisé en boutiquier livrant des aiguilles à tricoter et du fil, Barshaw était venu en personne mettre au point les détails du plan. Plutôt râblé, le nez proéminent, le regard vif mais irascible et la bouche sardonique, bien qu'il ait fait montre de tout le respect requis, il n'avait guère de caractéristiques communes avec son neveu. et aucun des traits de caractère qu'on attendait chez un commerçant. Cela dit, son plan était génial de simplicité, même s'il écornait la dignité de Morgaz, et il suffisait, pour qu'il fonctionne, qu'il y ait assez de gens à l'extérieur de la forteresse. Morgaz, pour recouvrer sa liberté, allait devoir s'enfouir sous un tas d'ordures ménagères, à l'arrière d'un chariot à détritus.
« Bien, vous savez tous ce qu'il vous reste à faire, »
dit la reine. Tant qu'elle restait dans ses appartements, ses compagnons jouissaient d'une très grande liberté de mouvement, et c'était la clé de tout. Enfin, peut-être pas de tout, mais sûrement de chacune des évasions, à part la sienne.
« Lini, Bréane et toi devraient être dans la cour de la blanchisserie quand l'horloge sonnera midi. »
Lini acquiesça, mais Bréane eut une moue dubitative. Oui, ils avaient revu tout ça une bonne vingtaine de fois, mais Morgaz refusait qu'un de ses compagnons reste en arrière à cause d'une erreur idiote.
« Talanvor, tu laisseras ton épée ici, et tu iras attendre dans une auberge appelée le Chêne et l'Épine. »
Le jeune officier ouvrit la bouche, mais Morgaz lui intima le silence.
« J'ai entendu 20 fois tes arguments. Tu te trouveras une autre épée. Si tu la laisses, nos hôtes ne se douteront pas un instant que tu ne reviendras pas. »
À contre-cœur, le jeune homme capitula.
« Lamguin attendra à la tête d'or, et Basel... »
On frappa à la porte, qui s'ouvrit juste assez pour laisser passer la tête chauve de Basel.
« Majesté, il y a un homme, un fils de la lumière. »
Basel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Un confesseur, Majesté. »
Comme de juste, la main de Talanvor vola sur la poignée de son épée. Pour qu'il consente à l'en retirer, Morgaz dut lui faire 2 fois signe et ajouter une grimace.
« Fais-le entrer, »
dit-elle, très calme. Mais à l'intérieur, une tempête se déchaînait. « Un confesseur, alors que tout allait si bien jusque-là, se dirigeait-on vers un désastre ?» Un homme de haute taille au nez aquilin écarta Basel, entra et ferma la porte au nez de l'aubergiste. Le bâton de berger écarlate, sur l'épaule de la cape du type, indiquait qu'il s'agissait d'un inquisiteur. « Einor Saren, » se souvint Morgaz. Si elle ne lui avait jamais parlé, on le lui avait désigné 1 fois ou 2.
« Vous êtes convoqué chez le seigneur général, »
dit sa reine, avec dans le regard une indestructible assurance.
« Suivez-moi sur le champ. »
Morgaz réfléchit à la vitesse de l'éclair. Ses convocations n'avaient rien d'inhabituel, car depuis qu'elle était à la forteresse, Nial ne se donnait plus la peine de lui rendre visite. Aujourd'hui, il entendait sans doute lui faire un nouveau sermon sur ses devoirs envers le royaume d'Andorre, ou avoir avec elle une conversation amicale, histoire de lui montrer qu'il avait à cœur ses intérêts et ceux de son royaume. Rien de très étrange, donc, n'était le messager. Si elle avait été livrée au confesseur, on ne lui aurait pas tendu un piège. Asunawa aurait sûrement envoyé assez d'hommes pour les capturer, sa suite et elle, sans qu'aucune résistance soit possible. Morgaz avait rencontré 1 fois le haut inquisiteur, et il lui avait glacé les sangs. Mais pourquoi était-ce un confesseur qui venait la chercher ? La reine posa la question à haute voix, et sa reine répondit de son ton glacial habituel.
« J'étais avec le seigneur général, et je devais passer près de vos appartements. J'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant, je peux vous escorter. N'est-ce pas le moindre respect dû à une reine ?»
L'homme semblait un peu ennuyé, vaguement impatient, et, en ce qui concernait sa dernière phrase, un rien sarcastique. Bref, tout ce qu'on pouvait imaginer, sauf chaleureux.
« Très bien. »
capitula Morgaz.
Majesté, dois-je vous accompagner ?
Demanda Talanvor en s'inclinant bien bas. Au moins, en public, il respectait un certain décorum.
Non.
Lamguin conviendrait mieux, et puis non. Si elle se faisait accompagner par un homme, elle donnerait l'impression d'avoir besoin d'un garde du corps. Sa reine l'effrayait presque autant qu'Asunawa, et elle avait bien l'intention de ne pas le lui montrer. La reine afficha son sourire le plus bienveillant.
« Là où je vais, je n'aurai nul besoin de protection. »
Dehors, quand elle vit le regard dubitatif de Basel et de Lamguin, Morgaz faillit changer d'avis. Si elle n'avait pas parlé un peu trop vite, elle l'aurait d'ailleurs fait. Cela dit, s'il s'agissait d'un piège, 2 hommes ne pourraient rien pour elle. Et revenir sur ce qu'elle avait dit serait un signe de faiblesse. En marchant avec sa reine dans le couloir, Morgaz se sentit extrêmement faible. Aucun rapport avec ce qu'aurait dû éprouver une reine. Si les confesseurs l'emmenaient dans leur donjon, peut-être crierait-elle comme n'importe qui d'autre. Peut-être ? En réalité, c'était une certitude. Face à la douleur, la chair royale n'était pas différente des autres. Et il aurait fallu être bien stupide pour croire le contraire. Mais en attendant d'éventuels malheurs, elle devait se comporter dignement et maîtriser son angoisse. Sa reine lui fit traverser une cour intérieure pavée où des hommes, torse nu, frappaient des poteaux en bois avec leur épée.
« Où allons-nous ? »
demanda Morgaz.
« Ce n'est pas le chemin que j'emprunte d'habitude pour gagner le bureau du seigneur général. Attend-il ailleurs ?»«
Un raccourci, » marmonna sa reine. « J'ai mieux à faire que... »
Il ne finit pas sa phrase et ne ralentit pas le pas non plus. Morgaz fut bien obligé de suivre le confesseur le long d'un couloir, traversant ainsi plusieurs grandes salles où s'alignaient des lits étroits et où grouillaient des hommes torse nus ou encore plus légèrement vêtus. En pensant aux phrases bien senties qu'elle allait balancer à Nial, la reine garda les yeux rivés sur le dos de son guide. Le duo traversa une nouvelle cour, celle d'une écurie. L'air empestait le fumier et un maréchal ferrant dans un coin était en train de mettre des fers à un cheval. Puis passa par un autre couloir, longea des cuisines d'où montait une odeur de graillon et pénétra dans une troisième cour. Morgaz s'immobilisa net. Un grand échafaud se dressait au centre de l'espace. Trois femmes et une bonne dizaine d'hommes attendaient leur exécution, les pieds et les poings liés, un nœud coulant déjà autour du cou. Quelques-uns de ces condamnés sanglotaient. Les autres semblaient pétrifiés de terreur. Au bout de la rangée, Morgaz reconnut Thorwin Barshaw et Peitre. Le pauvre garçon en manche de chemise, et non dans la veste rouge et blanche qu'elle avait fait confectionner pour lui. Si Peitre ne pleurait pas, son oncle sanglotait. Trop horrifié, le pauvre garçon devait être comme anesthésié.
« Au nom de la lumière !»
cria un officier. Un autre fils de la lumière abaissa un grand levier, tout au bout de l'échafaud. Les trappes s'ouvrirent, et les condamnés disparurent de la vue de Morgaz. Quelques cordes oscillèrent vivement, prouvant que ces suppliciés-là n'avaient pas eu la chance que leur nuque se brise net et mouraient étouffés. Peitre comptait parmi ceux-là. Et la belle évasion de Morgaz venait de mourir avec lui. C'était sans doute le jeune homme qu'elle aurait dû pleurer. Pourtant, sur le moment, elle pensait à sa liberté, perdue avant même qu'elle l'ait recouvrée. La reine d'Andorre piégée et son royaume avec elle. Sa reine la dévisageait, attendant sûrement qu'elle s'évanouisse ou vomisse.
« T'en as coup ?»
demanda-t-elle, fière que sa voix ne tremble pas. La corde de Peitre n'oscillait presque plus. Fin des espoirs d'évasion.
« Nous pendons des suppôts de ténèbres tous les jours, » répondit sa reine.
« En Andorre, vous les relâchez peut-être après leur avoir fait la morale. Pas nous. »
Morgaz soutint le regard du confesseur. Un raccourci? Ainsi, c'était ça la nouvelle tactique de Nial? La tentative d'évasion, ou plutôt le plan, n'avait pas été mentionnée. Et ça n'avait rien d'étonnant. Nial était bien trop subtil pour ça. Morgaz était une invitée d'honneur. Et si on avait pendu devant elle Peitre et son oncle, c'était par le plus grand des hasards, et pour un crime sans rapport avec elle. Qui seraient les prochains à monter sur l'échafaud? Lamguin ou Basel? Lini ou Talanvor? Bizarrement, imaginer Talanvor avec un nœud coulant autour du cou serra davantage le cœur de la reine que songer à Lini subissant le même sort. Décidément, l'esprit humain était étrange. Du coin de l'œil, Morgaz vit Asunawa derrière une fenêtre qui dominait la cour. Bien entendu, il la regardait. Cette mise en scène était-elle son œuvre et non celle de Nial? En fait, ça ne changeait rien. Pas question de laisser mourir des innocents. Et surtout pas Talanvor. Cet esprit humain, quand même. Un sourcil arqué, Morgaz décida de faire un peu de provocation.
Si ce spectacle vous a coupé les jambes, nous pouvons attendre que vous ayez repris des forces.
Un ton léger, comme s'il était en train de prendre une infusion. Pourvu que son estomac ne la trahisse pas. Sa reine se rembrunit et repartit aussitôt à grandes enjambées. Morgaz le suivit à un rythme plus lent, sans lever les yeux vers Asunawa, ni tourner la tête en direction de l'échafaud. Il s'agissait peut-être bien d'un raccourci tout compte fait. Dans le couloir suivant, sa reine la précéda dans un court escalier, qui donnait directement sur la salle d'audience de Nial. Le trajet le plus rapide que Morgaz eût jamais fait. Comme d'habitude, Nial ne se leva pas. Et il n'y avait pas de siège prévu pour sa visiteuse. La reine fut donc contrainte de se tenir debout devant le seigneur général, telle une pétitionnaire. L'air distrait, Nial semblait la regarder sans la voir, comme s'il avait d'autres chats à fouetter. Il avait gagné, et il la traitait comme si elle était transparente. De quoi enrager. Oui, il avait triomphé. ne devait-elle pas retourner dans ses appartements? Si elle demandait à Talanvor, Basel et Lamguin de lui ouvrir un passage par la force, il le ferait. Il périrait, bien sûr, et elle aussi, puisqu'elle n'avait jamais tenu une épée de sa vie. Mais si elle donnait cet ordre, eh bien, elle ferraillerait avec ses hommes. Elle morte, Elaine monterait sur le trône du lion. À condition d'empêcher Altor de s'y asseoir. Mais la Tour Blanche ferait le nécessaire pour que la fille héritière ne soit pas lésée. La Tour Blanche? Si fou que ça puisse paraître, Morgaz s'y fiait encore moins qu'Agnal. Bref, c'était à elle de sauver le royaume d'Andorre. Et le prix, eh bien, il faudra le payer.
« Je suis prête à signer ce pacte »,
annonça Morgaz, chaque mot lui arrachant la gorge. Njal parut ne pas avoir entendu. Puis il scia, eut un ricanement et secoua la tête. Cette comédie irrita au plus haut point la reine. Jouer la surprise. Faire comme si elle n'avait pas tenté de fuir. La traiter comme une invitée. Que n'aurait-elle pas donné pour voir Njal sur un échafaud? Le seigneur entra si vite en action que tout souvenir de son apathie originelle s'en effaça. En un éclair, il fit venir son étrange secrétaire avec un texte déjà rédigé et une copie du sceau d'Andorre impossible à distinguer de l'original. Forcé ou non, Morgaz prit quand même le temps de lire les conditions du pacte, parfaitement conforme à ce qu'elle attendait. Njal conduirait les Capes Blanches à la reconquête du trône de Morgaz, mais il y avait une contrepartie, même si on n'en parlait jamais en ces termes. Un millier de fils de la lumière seraient cantonnés à jamais à Kemlin, et ils disposeraient d'une cour de justice indépendante des lois du royaume. Du coup, ces hommes auraient dans tout l'Andorre un statut égal à celui des gardes de la reine, et à tout jamais là aussi. Pour briser ce pacte, il faudrait peut-être bien toute la vie de Morgaz et celle d'Elaine en plus. Mais c'était ça, ou abandonner le trône du lion à Randaltor. Ou à une de ses marionnettes, qu'elle se nomme Elenia, Naehan, ou que savait-elle encore. À moins qu'Elaine devienne la marionnette de la tour, ce qui ne valait pas mieux. Se fier aux Aes Sedai aurait été une folie. Morgaz signa puis apposa le sceau, le lion d'Andorre entouré par la couronne de roses, dans la cire rouge au bas du document. Voilà. Elle était la première reine ayant accepté la présence de soldats étrangers sur le sol andorien.
Dans combien de temps?
C'était plus difficile à demander que prévu.
Dans combien de temps partiront vos légions?
Hésitant, Njal baissa les yeux sur la table, où il n'y avait rien de spécial. Une plume, un encrier, une fiole de sable et un bâton de cire à cacheter au bout encore légèrement fondu, comme si le seigneur général venait de finir d'écrire une lettre. Signant à son tour le pacte, il y imprima son propre sceau. Un soleil étincelant dans de la cire jaune. Puis tendit le document à son secrétaire.
« Mets-le à l'abri aux archives, Balwer. Morgaz, je crains de ne pas pouvoir passer à l'action aussi vite que je l'espérais. Il y a des développements imprévus. Rien qui vous concerne directement. Des décisions à prendre au sujet de pays sans lien avec l'Andorre. Je vous en prie, dites-vous que ça me permettra d'apprécier un peu plus longtemps votre compagnie. »
Balwer s'inclina avec grâce, mais aussi un rien de raideur. Et Morgaz aurait juré qu'il avait failli adresser à son maître un regard stupéfait. La reine elle-même n'en revenait pas. Il l'avait harcelée sans trêve, et voilà qu'il avait mieux à faire. Balwer s'empressa de sortir, comme s'il redoutait que la souveraine lui arrache le document et le déchire. Mais Morgaz n'y avait même pas songé. Au moins, il n'y aurait plus de pendaison. Le reste viendrait en temps voulu, une chose après l'autre. Elle avait fini par céder, mais elle avait de nouveau du temps. Un cadeau inattendu qu'elle n'entendait pas gaspiller. Le plaisir de sa compagnie? La reine afficha son plus beau sourire.
« On croirait qu'un poids écrasant a quitté mes épaules. Dites-moi, seigneur général, jouez-vous aux pierres ?»«
On dit que j'y excelle, »
répondit Njal, d'abord surpris, puis amusé. Morgaz rougit, mais parvint à cacher sa colère. Autant qu'il la pense brisée désormais. Nul ne surveillait de très près un adversaire au moral détruit. Il ne s'en méfiait beaucoup. En se montrant prudente, la reine aurait une chance de récupérer une partie de ce qu'elle avait perdu, et ce, avant que les Capes Blanches sortent de la Madicia. En matière de grand jeu, elle avait eu un très bon maître.
« Si m'affronter vous tente, j'essaierai de me montrer à la hauteur. »
Au pierre, elle n'était pas manchotte non plus, et peut-être même meilleure que ça. Mais bien sûr, elle devrait perdre. Pas trop ridiculement, sinon son adversaire s'ennuierait. Elle avait horreur de perdre, mais bon. Pensif, Asunawa pianotait sur la coudoire dorée de son fauteuil. Au-dessus de sa tête, dans un disque blanc qui occupait presque tout le dossier, le bâton de berger rouge brillait de toute sa laque.
« La sorcière a été secouée, » murmura le haut inquisiteur.
Sa reine répondit comme s'il venait d'être accusé. « Les pendaisons font cet effet à certaines personnes. Ces suppôts de ténèbres ont été capturés hier. D'après ce qu'on m'a dit, ils psalmodiaient une prière à la gloire des ténèbres, quand Trom et ses hommes ont démoli leurs portes. J'ai vérifié. Personne n'a songé à demander s'ils avaient un lien avec la reine. Au moins, sa reine ne sautait pas d'un pied sur l'autre, se tenant bien campée sur ses jambes comme un digne membre de la main de la lumière. Asunawa repoussa ses explications d'un vague signe de la main. Bien sûr qu'il n'y avait aucun lien, sinon que cette femme était une sorcière et ses gens des suppôts des ténèbres. Une sorcière dans la forteresse de la lumière. Troublant en soi, mais il y avait autre chose. Nial m'a chargé d'aller la chercher en me parlant comme si j'étais un chien, marmonna sa reine. Être si près d'une sorcière a failli me faire vomir. Mes mains brûlaient d'envie de se nouer autour de son cou. Ayant à peine entendu, Asunawa ne fit pas l'effort de répondre. Nial détestait la main de la lumière. Ça tombait sous le sens. La plupart des hommes haïssaient ce qui leur faisait peur. Mais le sujet important, c'était Morgaz. Elle n'était pas faible. Aucun doute là-dessus. Alors que beaucoup de gens se seraient écroulés une fois dans la forteresse, elle avait remarquablement bien tenu tête à Nial. S'il se révélait qu'elle n'avait rien dans le ventre, au bout du compte, ça ruinerait certains plans du haut inquisiteur. Tous les détails étaient en place dans son esprit. Chaque journée du procès de Morgaz, en présence des ambassadeurs de tous les pays qui en avaient encore. Puis sa dramatique confession, arrachée si subtilement que personne ne verrait trace d'une intervention extérieure. Et enfin, son exécution, entourée de tout un cérémonial. Un échafaud construit spécialement pour elle, puis conservé, afin qu'on n'oublie jamais ce grand moment. « Espérons qu'elle continue de résister à Nial, » dit Asunawa avec un sourire que certains auraient pu qualifier de doux et de pieux. La patience du Seigneur Général ne serait pas éternelle. Tôt ou tard, il devrait livrer Morgaz à la justice.